100.2.
Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Du 15 au 17 novembre, la Diaconie de la Beauté propose le Festival de la Beauté. Il aura cette année pour thème la Genèse. Comment la création est-elle mise en valeur par les artistes? Comment leurs talents sont-ils mis au service de la beauté? Élément de réponse aujourd'hui avec les invités de Radio Présence. Le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, retrace l'histoire de la création. Comment les artistes s'associent-ils à cet acte créateur? Comment leurs œuvres participent-elles à la beauté du monde? Pour en parler, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Claire Planty, artiste et présidente de la Diaconie de la Beauté du diocèse de Toulouse. Bonjour Claire.
Bonjour Isabelle.
À vos côtés, Agata Zespol, danseuse du groupe polonais et responsable de la communauté religieuse Lilia. Bonjour Agata.
Bonjour.
Et enfin, à vos côtés, Daniel Facerias, diacre et artiste. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Alors évidemment, vous avez, Daniel, 40 ans de carrière. Vous avez sorti 26 albums, écrit plus de 20 spectacles sur la vie de saints ou sur des épisodes historiques. Et avec votre épouse Anne, vous êtes les fondateurs de la Diaconie de la Beauté. Il y avait aussi Michael Lonsdal.
Tout à fait, avec Michael, oui.
Avec Michael, qui nous a quittés il y a 2 ans maintenant.
En 2020.
Il y a 4 ans déjà. Alors, on va commencer peut-être par parler de ce thème que vous avez choisi pour ce Festival de la Beauté. Ce thème, c'est la Genèse. Pourquoi avez-vous fait ce choix, Claire Planty?
Alors là, je ne suis pas la seule à avoir fait ce choix. Nous avons fait ce choix en retraite. Chaque année, la Diaconie de la Beauté internationale, si on peut dire, organise une retraite autour de Monseigneur
Le Gall.
Et dans un lieu différent.
L'ancien évêque de Toulouse.
L'ancien évêque de Toulouse. Qui est... Et donc, dans cette retraite, chaque petite fraternité de festival relate un peu comment s'est passé le festival. Et puis, de fil en aiguille, on en vient à parler au thème de l'année suivante et quelquefois même de l'année ensuite aussi, l'année d'après.
Mmh. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à ce thème de la création de la Genèse, Daniel?
De toute façon, c'est lié à la démarche des artistes. Hein. L'artiste prolonge un peu le geste créateur du père, enfin, on pourrait dire. Et c'est un peu dans cette idée-là qu'on a, pour retrouver l'essence vraiment de ce qu'est la création.
Mais justement, je voulais que vous nous parliez de cette prolongation du geste créateur. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on peut dire qu'un artiste, il est co-créateur ou est-ce qu'il est... il est participant à la création. Qu'est-ce que vous diriez?
Moi, je dirais qu'il est participant à la création. D'ailleurs, si on veut faire un peu le savant, dans les mots mêmes, notamment en hébreu, c'est le mot « créer » qui est attribué à Dieu. Et l'homme fabrique, mais l'homme ne crée pas. C'est Dieu qui crée et l'homme fabrique. Donc, et d'ailleurs, on parlait de Michael, mais Michael avait une expression assez intéressante. Il disait « L'artiste est traversé par une lumière dont il ne connaît peut-être pas toujours l'origine. » Ce qui veut dire que cette lumière qui permet à l'artiste de créer ne lui appartient pas. Et donc, ça veut dire, ça correspond à ça. L'artiste fabrique à partir de ce qu'il reçoit. Mmh.
Alors que Dieu crée à partir de rien.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Et alors, dans sa lettre aux artistes en 1999, Saint Jean-Paul II disait ceci: un nombre infini de fois fasciné et plein d'admiration devant le pouvoir mystérieux des sons et des paroles, des couleurs et des formes, vous avez contemplé l'œuvre de votre inspiration, y percevant comme l'écho du mystère de la création auquel Dieu, seul créateur de toutes choses, a voulu en quelque sorte vous associer.
Exactement.
Voilà. Il avait tout compris, Jean-Paul II. Mm-hmm. Claire, vous voulez ajouter quelque chose sur cette...
Non, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Cette beauté...
Il y a un petit détail, c'est Dieu qui crée. Et regardez, dans l'histoire du veau d'or, il est bien dit qu'il fabrique à partir de l'or, enfin des bijoux que Aaron demande aux Hébreux de donner, il fabrique le veau d'or, il ne le crée pas. Et ils viennent en contre de la création de Dieu et de ce qu'il est en train de donner à Moïse. Enfin, c'est C'est intéressant.
Quoi. Ah oui, oui, c'est intéressant. Comment vous définiriez la vocation de l'artiste chrétien? Et peut-être qu'Agatha peut nous en parler.
Je peux dire de ma propre expérience. Mm-hmm. Je savais pas, je me rendais pas compte que j'étais artiste et surtout une artiste de Dieu. Qu'après on peut dire une conversion personnelle, une rencontre avec Jésus. Là, j'ai découvert que les talents qu'il m'a donnés étaient vraiment pour un but beaucoup plus profond que j'ai pensé. Et du coup, je découvre tout le temps, mais c'était surtout après la rencontre avec le Seigneur que j'ai découvert son amour dans chaque geste créateur. Et moi, quand je crée, je sens que je participe à cette création, que je peux passer son amour dans les gestes créateurs, dont je peux passer sa beauté, que je peux passer d'une certaine manière la divinité le sens profond de la sainteté aussi, de la paix, de la joie, de l'espérance. C'est tout ce qui nous approche à Dieu. Et je le sens profondément dans mon cœur que nous, en tant qu'hommes et femmes, sommes vraiment appelés à faire ça, à passer, à emmener le monde, à approcher au Seigneur, voilà, par ses gestes, par la création. C'est-à-dire par notre créativité.
C'est très bien vu. Mmh. Notre créativité. Mmh. Claire, elle a des choses...
Mais moi, ce que j'entends vraiment dans ce que dit Agatha, c'est que pour arriver à cette rencontre, il y a un geste qui me semble vraiment crucial, si on peut dire. C'est ce geste de simplicité, d'humilité, de dépendance, de vouloir se dire, voilà, je m'incline quelque part pour
recevoir. Je suis au service.
Pour recevoir, déjà. Parce que après, bon, on va voir qu'on est au service, mais déjà pour recevoir ça. Et c'est très, très, c'est pas donné à... Enfin, je veux dire,
c'est déjà une démarche.
C'est déjà une très grande démarche de départ. S'il n'y a pas cette démarche, on part dans des sphères où la beauté, la créativité, ça part un peu dans tous les sens. Mmh. Et on n'est pas ancré dans cette humanité qui est profonde et qui est, je m'incline parce que je reconnais. Et alors, les choses, j'écoute, quoi, en fait. J'écoute ce qui se passe en moi.
Mais ça implique quand même une attitude de prière, une attitude d'écoute pour être vraiment à l'écoute de ce que dit Dieu.
En continuant, on peut dire que ça arrive à la prière. Mais déjà, cette simplicité, même pour ceux qui ne prient pas, finalement, qui ne savent pas, c'est une sorte de prière, mais même si on n'est pas vraiment chrétien, il y a cette espèce d'inclinaison, de dépendance,
c'est
de quelque chose
juste,
de plus grand, qui m'émerveille, et je me laisse conduire quelque part.
Et d'ailleurs, on se rend compte que même les grands artistes, même non croyants ou non chrétiens, les grands souvent se reconnaissent par leur humilité, parce qu'ils comprennent que ce qu'ils ont entre les mains ne leur appartient pas forcément.
Oui, c'est ça. Oui.
C'était le pianiste Horowitz, là, qui pourtant n'est pas compositeur, mais Horowitz, il était d'une humilité absolue, parce qu'il dit que le don qu'il avait de ses doigts ne lui appartenait pas. C'est beau, hein, elle a raison, Claire.
Et en parallèle, ce que vous disiez, Agatha, vous disiez que vous transmettiez ce que vous avez reçu. Et ça, donc, non seulement il y a une démarche d'humilité, mais aussi il y a une exigence.
Ah oui.
Mm-hmm. Ah oui.
Oui, c'est
Agatha.
Ça. Oui, il y a une exigence, c'est une responsabilité en fait aussi. Oui, on a reçu, on est appelé à donner, à passer, voilà. Mais c'est ce qui nous remplit aussi. C'est nous qui faisons l'expérience aussi de l'amour de Dieu. On est rempli par l'Esprit Saint, par la grâce, et puis ça nous rend heureux aussi. C'est pas vide. Ça nous apporte à notre vie aussi un sens très profond.
Ça vous comble.
Ça nous comble en tant qu'artiste. Et ça nous emmène plus haut.
Voilà.
Oui.
Donc ça vous fait aussi progresser dans la foi, non seulement dans la danse ou dans l'art que
dans
vous
la technique, oui, dans la technique,
dans la technique, mais aussi dans la foi.
Voilà, et comme Claire a dit, ça doit être fait aussi avec la prière, avec la relation avec le Seigneur, parce que c'est comme ça que nous découvrons qu'on est unis avec l'absolu. Voilà, et c'est ça ce qui nous permet de créer vraiment avec lui. Voilà.
C'est intéressant ce qu'elle dit, parce que en fait, le seul médiateur, c'est le Christ. Et l'artiste aurait tendance à se réapproprier son art en disant « je suis » et de se sentir médiateur. C'est-à-dire, moi je l'ai vu dans mes expériences, normalement j'avais joué avec un groupe de hard rock ou australien, bon, c'est pas le fait qu'il soit australien, mais le fait qu'il manipule quelque part le public, parce que l'aura ou la puissance que donne la notoriété fait qu'il faisait faire le salut nazi aux gamins, etc. Donc c'est quelque chose d'épouvantable. C'est-à-dire que lorsqu'on ne vit pas le don qu'on a reçu comme étant au service d'eux.
Mmh. Et comme, c'est toujours un risque.
C'est toujours un risque. Voilà, d'être, je aussi, suis moi le médiateur, c'est moi le... Et on le voit avec beaucoup d'artistes qui, malheureusement...
Oui, c'est ça, il manipule. Alors, Daniel Fasserias, vous donnerez à l'École de l'Annonciation à Seille le 15 novembre à 18h une conférence sur la création.
Pas tout seul,
non, puisqu'il y aura effectivement... Une table ronde.
La table ronde.
Avec, ah oui, c'est deux choses différentes. Avec Agatha. Et puis voilà, il y aura la conférence et puis la table ronde.
Ah d'accord.
Que vous inspire cet acte de création de Dieu lui-même dont on parle dans la Genèse?
En deux minutes, c'est un peu court. Mais
trois, si vous voulez.
Non, le justement, on a eu à Lourdes, puisqu'on sort du Festival de Lourdes où j'y étais, c'était une très belle table ronde sur le même sujet, et il y avait un hindou, il y avait le Monseigneur Perrier, l'évêque émérite de Lourdes, et un jeune philosophe. Et c'était intéressant de voir que même l'hindou considérait que la création, qu'il y a eu un acte créateur de Dieu, c'est-à-dire que la physique classique nous dit qu'il n'y avait rien, qu'il y a eu un Big Bang, plus ou moins. Mais en fait, il y a eu un acte créateur de Dieu. Et cet acte créateur de Dieu, qui est à l'origine de ce que nous sommes, il se décline, cet acte créateur, par... Alors, on se moque maintenant, la science souvent se moque du livre de la Genèse, mais les six jours de la création sont vraiment l'écrin que Dieu va créer pour créer l'homme qui est à son image. Qui est son image, et c'est ça, on l'oublie souvent. Et donc, en fait, l'évolution, s'il y a une évolution, c'est cette évolution qui part peut-être de ce néant, de ce rien qui était au départ, pour créer les conditions nécessaires à ce que l'homme qui est à son image puisse être créé. Et c'est Grégoire de Nice qui va jusqu'à dire que, et même Basile de Césarée, dans les six jours de son livre, il dit que les six jours de création sont récapitulés dans l'homme. C'est-à-dire, on est constitué de tous les éléments qui sont créés dans les six jours. L'homme et la femme sont créés avec tous ces éléments. Et en nous, nous avons des parts animales, des parts végétales, etc. Et je trouve que cette dimension de la création aujourd'hui, même avec... Laudato si, nous montre combien nous sommes partie intégrante de la création tout entière. Tout est lié, et nous en sommes la récapitulation. Et c'est pour ça que dans le même chapitre de la Genèse, Dieu dit « Tu nommeras tous les animaux ». Et en hébreu, nommer, c'est dire l'essence, l'essentiel. C'est-à-dire que nommer, c'est pas simplement donner un nom, c'est connaître intérieurement ce que sont chaque espèce. Et l'homme est gardien, porteur de tout ça. Donc moi, je suis émerveillé. C'est émerveillant.
Il y a de quoi, oui. Et puis, vous discuterez aussi avec un philosophe et théologien qui est Fabien Revol,
oui.
Qui est au centre Hélène et Jean Bastère dans le
oui,
Lot.
Oui, Jean Bastère, qui était quelqu'un... Quand j'ai fait ma thèse, moi, je me suis beaucoup... j'ai beaucoup lu Jean Bastère et donc lui, justement, ce philosophe est très porté sur le Laudato si, sur l'écologie intégrale. En fait,
voilà, et tout ce lien entre
tout ce lien de la création.
Ouais. Claire Planty, c'est votre mari qui a écrit le spectacle La Création, donc Ghislain. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce spectacle qui va être présenté donc, à l'École de l'Annonciation? Ce sera à Seille à 16h dimanche.
Oui, alors l'écriture a été faite par Daniel.
L'écriture par Daniel et la musique par Ghislain.
Voilà, c'est ça. Et Ghislain a écrit donc la musique. Alors, bon, il y a eu un concours de circonstances qui fait que Ghislain est touché depuis très longtemps par ce mystère de la création. Il avait sorti un CD sur tous les que du piano.
Magnifique.
Sur tous les jours de la création.
Ouais, et c'est voilà, magnifique.
Et 7 jours. Et en fait, c'est Daniel qui a demandé que voilà qu'à partir de là,
on puisse faire quelque chose.
Et donc Ghislain s'est servi bien sûr de ses œuvres déjà composées, mais il a aussi, par rapport au texte que Daniel avait écrit, il a aussi mis en musique donc
les
chants, enfin les textes, les ouais. poèmes les plus touchants. Une chanson sur la mer, l'autre la terre, Ish et Isha, c'est-à-dire
oui, l'homme et la femme.
Voilà. Il y a eu aussi Tov, beau, oui. ce qui est beau.
Et puis, Dieu vit que cela était beau.
Voilà, ouais. Et Dieu vit que cela était
shalom.
Beau.
Et
shalom. Voilà.
Et on a eu l'idée de faire venir donc Agatha et sa compagnie pour. Voilà.
Alors, Agatha, qu'est-ce que vous allez faire spécifiquement dans ce spectacle? Vous allez danser, donc vous serez combien?
Nous allons danser. Nous avons préparé cette chorégraphie pour les chansons que nous avons reçues. Et donc, voilà, c'est notre tâche dans le spectacle. On va danser.
Oui, mais c'est vous qui avez...
Elle a fait les chorégraphies.
Qui avez écrit la chorégraphie.
Oui, avec les autres filles.
Avec
on a travaillé ensemble. On peut dire, oui.
Ouais. Et puis les enfants de l'Annonciation.
Alors, vous avez répété voilà. aussi avec
comme
les enfants
d'école. Comme c'est dans une école, nous avons eu la chance d'être accompagnés par Victoria, qui n'est pas de l'école, que je connaissais l'année dernière, puisqu'elle est venue danser à la Dorade lors du festival l'année dernière, violon et danse, c'était très beau. Et cette année, elle a accepté de revenir, mais pas nécessairement pour danser, mais s'il y avait besoin d'elle pour une chorégraphie auprès des enfants de l'école. Donc ça a été vraiment, de sa part, vraiment un beau témoignage, parce qu'elle a vraiment donné de son temps et sans nécessairement se retrouver sur la scène, ce qui est vraiment très fort, je trouve. Mmh. Voilà, très sympathique. Et elle a fait du beau travail, parce qu'on a eu quand même des petites épopées avec ses enfants qui venaient une fois 20. La deuxième fois, ils sont arrivés à 72, comme les disciples, hein, deux par deux.
Ah tiens.
Et puis ils sont repartis, sans doute, ils sont partis en mission. Et finalement, ils sont 20.
D'accord. Voilà. Et ce spectacle, donc, il est basé donc, sur ces chansons, Ish et Isha, Shalom, La Terre, la Mer. Et en fait, quelle est l'histoire précisément?
C'est les 6 jours.
Les 6 jours de la création.
Il y a un moine qui raconte à un petit garçon. Le petit garçon pose des questions, plus exactement. Et lui, bon, c'est un peu ludique. Et puis, ce qui permet de présenter par le moine, enfin, qui retranscrit différemment. On ne lit pas intégralement, enfin, c'est plutôt réécrit, l'histoire des 6 jours. Et à chaque jour, il y a une illustration.
Magnifique.
Chorégraphique. Oui.
Mm-hmm. Oui, ça doit être très beau. Alors, je voudrais, avant qu'on fasse une pause, qu'on parle de cette table ronde, et Dieu vit que cela était beau, et qu'on parle justement de la beauté. Dans quelle mesure les artistes sont-ils au service de la beauté? Et pour, avant de vous laisser répondre, je voudrais citer cette constitution pastorale Gaudium et Spes qui a été publiée dans le cadre du Concile Vatican II, que vous connaissez certainement, c'était le 8 décembre 1965. Pardon. Ce monde dans lequel nous vivons a besoin de beauté pour ne pas sombrer dans la désespérance. Bravo. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez, vous, sur cette part que prennent les artistes au service de la beauté?
Claire?
Ben, je crois qu'effectivement, c'est un service aujourd'hui. Mmh. D'ailleurs, la diaconie de la beauté, c'est un service. C'est un service. Elle se met au service de la beauté, certes. Mais oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, je crois que vraiment, il y a un service à rendre pour l'Église et puis à la périphérie de l'Église.
Et le monde aussi, non?
Pour le monde, ça c'est sûr. Mais de la part de l'Église, d'évangélisation, par vraiment, par, par l'art, par la beauté, parce que l'art, ça évoque toujours des grands artistes en haut de l'échelle. Mmh. Mais en fait, l'art, c'est très simple. C'est très simple. Hein. C'est une veine artistique que chacun porte en lui.
Une expression.
Oui, et peu importe si c'est grand ou petit, c'est là. Et notre quotidien peut être rempli de cette façon, de ce regard. Parce que finalement, c'est un regard de beauté sur tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est et tout ce qu'on partage. Mmh. Et c'est pas facile, c'est sans arrêt à remettre en question. Mais je crois qu'il y a... Alors, ce festival, finalement, c'est un peu comme un espèce d'exercice hein, pour donner de l'élan, pour que le quotidien soit animé vraiment de ça. Quoi.
Mmh. Agatha, sur cette dimension de service, au service de la beauté.
Mmh. Pour moi, quand je pense à ça, quand je danse, par exemple, y a trois dimensions de la beauté dans notre danse. Le côté visuel, l'esthétique, c'est la première chose qui attire l'œil, qui nous approche, parce que c'est intéressant, c'est beau, au niveau visuel, au niveau physique, voilà. Donc c'est ça, c'est déjà voilà quelque chose qui peut peut-être surligner la beauté de Dieu. Puis le deuxième aspect, c'est ce qui nous emmène un peu plus profond, un peu plus
plus loin, en profondeur, plus loin.
Voilà. C'est le côté émotionnel, c'est ce que nous exprimons aussi, au niveau émotionnel, au niveau des... Nous faisons ça au niveau des gestes, au niveau du visage, voilà. On passe quelques émotions et tout. Et le côté spirituel, et ça, je crois que c'est quelque chose que nous découvrons encore, mais c'est aussi un aspect qui nous emmène encore plus loin dans la profondeur de la beauté. Et là, ça dépend de l'intention de notre cœur. C'est dans le cœur des artistes qui sont unis avec Dieu et sont au service du Seigneur, voilà. Et comme ça, il passe son message, ce que c'est lui qui veut parler, qui veut dire quelque chose. À l'audience, aux spectateurs. Et là, on trouve qu'il y a encore un côté de la beauté spéciale pour chacun. Et voilà, c'est ce qui cause des touches spécifiques, des touches très très profondes, très profondes, très exceptionnelles. Mmh. Voilà.
Daniel, vous voulez rebondir sur cette
Je pense qu'on pourrait rajouter un mot à la prière de Saint François quand il dit « Là où est la haine, laissez-moi mettre l'amour, laissez-moi mettre la beauté ». Je pense que la beauté a une dimension, irénique, c'est-à-dire qui porte la paix. Et cette dimension nécessite un service, c'est-à-dire rien n'est jamais acquis, comme le dit Claire. C'est-à-dire cette beauté, c'est un travail quotidien d'essayer d'être... Regardez au Moyen-Âge, par exemple, qui était un siècle, contrairement à ce que les historiens du 19e siècle disaient, que c'était l'obscurantisme, était un siècle justement de beauté. Mmh. Tout, la vaisselle, tout, chaque élément de la vie était orné d'une façon remarquable. Et donc, on se sentait digne. Et de fait, le comportement et la manière d'être étaient totalement différentes. On n'était pas dans le laisser-aller, on était toujours dans cette rigueur que la beauté nous invite à vivre. Et comme le dit Agatha, c'est de vivre comme ça, c'est traduire aussi et transmettre la beauté divine. C'est-à-dire, Dieu a créé les choses pas par un laisser-aller. Tout est extrêmement
ordonné.
Jusqu'aux nanoparticules. Les nanoparticules nous montrent que rien n'est laissé au hasard. Voilà. Ainsi, donc, je crois que notre rôle d'artiste, ou de serviteur de la beauté, c'est d'essayer d'éveiller dans chacun, comme on a la capacité de Dieu en nous, on a aussi une capacité à la beauté. Et chacun a cette capacité que l'on doit par les gestes magnifiques de d'Agatha ou par la voix de Claire, animer, éveiller plutôt cette capacité du beau en chacun des... Et on le voit, bon, moi je ne veux pas rentrer dans les polémiques, mais lorsque certaines manifestations artistiques manifestent plus de laideur, plus de choses choquantes, c'est le contraire de ce que nous souhaitons. C'est-à-dire, et je pense qu'à ça, il faut opposer vraiment la beauté par des choses simples, comme disait Claire au début. Très simple.
Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je voudrais relever le mot que tu as employé, que je trouve très fort, c'est que chaque être aussi, la beauté, en fait, elle nous révèle dans notre dignité. Et si l'œuvre n'est pas vraiment cette beauté, la personne ne se sent pas réveillée dans sa dignité personnelle. Voilà. Et il y a des comparaisons. Et y a des... Alors que si on va toucher au cœur, là, la dignité. Et la dignité aujourd'hui, qu'est-ce que c'est.
Et elle manque.
Ça manque. Qu'est-ce que c'est important de se sentir digne. Enfin, moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal déjà. Parce qu'on est dans un monde où on n'arrête pas de se comparer. Mais non! Pour moi, rien que pour moi, et tout ce que dit par exemple Agatha, ça me réveille dans ma dignité.
Voilà.
Et pas dans ah ben moi j'aimerais aussi être comme ça. Non, non. Dans ce que dans voilà.
C'est magnifique.
Chacun selon son charisme. Et...
Voilà. Oui, c'est la dignité profonde. Elle a raison. C'est vraiment. Et on va avoir quelques. Tu peux en parler. Quelques personnes de la diaconie au sens de la diaconie 31, de la théâtre 31 qui vont venir justement pour et l'art leur aide à retrouver cette dignité que souvent le regard extérieur leur enlève.
Alors justement, on va parler de ça après la pause. Et comme vous avez abordé ce thème, vous avez employé ce mot de paix, Daniel Fasserias, nous allons écouter Shalom, donc composé par Ghislain Planty. Et je vous propose de nous retrouver juste après.
Isabelle Duché.
Nous écoutions Shalom, interprété par Kaya Mirecki et composé par Ghislain Planty, puisque nous parlons du Festival de la Beauté proposé par la Diaconie de la Beauté qui se déroulera du 15 au 17 novembre à l'école de l'Annonciation à Seille et aussi à la Dorade. Dans cette dernière, auront lieu un concert des talents samedi soir et la messe dimanche matin. Et c'est ce que vous disiez juste avant la pause, Claire Planty, c'est l'occasion de mettre en valeur tous les talents et les plus petits talents finalement, les plus petits artistes on pourrait dire.
Oui, alors là, si je peux me permettre de parler de la diaconie 31,
oui, bien sûr.
Puisque j'ai eu la grâce de rencontrer l'année dernière Jean-Luc Donadieu, qui faisait partie de la PPH et qui est cette année
la
au
PPH.
Bureau alors, pastoral de la personne handicapée et qui cette année était au bureau de diaconie 31 avec Sébastien.
Le diacre Sébastien Combre.
Voilà. Et nous avons dialogué. J'ai été invitée à la première journée de rentrée de Diaconie 31, où toutes les associations en Diaconie 31, donc c'est auprès de la personne, on dit du frère en difficulté. Mmh,
hein, du pauvre, avec
du
un
pauvre, mais plutôt, ouais. Voilà, du frère en difficulté, que ce soit un migrant, que ce soit un homme de prison, que ce soit une personne en EHPAD, que ce soit personne de la rue, etc. Ou personne, évidemment, handicap aussi. Physique. Et du coup, il m'a donné la possibilité de présenter la Diaconie de la Beauté à la Diaconie 31. Ça a été un beau cadeau. Et nous avons un peu décidé de donner cette place aussi comme une invitation à notre tour pour la messe des artistes qui aura lieu donc le 16.
Donc dimanche à la Dorade.
Non, le vendredi.
Le samedi 16 à la Basilique Notre-Dame de la Dorade autour de Monseigneur à 18h. Voilà. Et donc ça, c'est une belle expérience, puisqu'il va y avoir... je ne vous dis pas ce qui va se passer, mais une belle intervention. Voilà. Donc ça, c'est la place, effectivement, du plus... de celui qui voudrait que sa voix soit entendue, que sa personne, que sa dignité soit reconnue là où il est. Et on est heureux parce qu'il va y avoir une chanteuse qui a une voix lyrique, qui est migrant, et qui va venir chanter à cette messe, des artistes. Enfin, il y a des occasions comme ça. Et ils sont aussi conscients qu'il y a le service à donner. Donc, le dimanche, ils vont aussi nous aider. Il y a un repas préparé, ils veulent participer. Ils ont participé à la préparation de l'offertoire de façon merveilleuse. Voilà, tout ça, c'est à vivre.
Et Jean-Luc va jouer dans le... petit spectacle de Michel, d'Archange, là. Avant notre spectacle sur la création, il y a une petite comédie avec des gens de Bartimée sur l'Annonciation. Et Jean-Luc, sur son fauteuil roulant, jouera Saint-Joseph. Donc c'est une façon aussi de...
Voilà, c'est Michel Cess qui a écrit ce petit spectacle juste avant le spectacle de la création.
Ça montre vraiment que l'art est à la portée de tous,
voilà,
et que chacun est artiste, peut être artiste là où il est et selon ses capacités.
Tout à fait. Il y a une jeune handicapée qui s'appelle Solène qui écrit des textes et Michel Pangard de Lourdes a mis en musique et ce sera chanté justement il viendra spécialement pour chanter la chanson de le soir des talents. Ouais. Là, ouais.
Je crois que la diaconie de la beauté, on voudrait essayer de faire tomber cette parole qui est « Oh ben non, mais de manière, moi, je suis pas artiste, c'est pas pour moi. » Parce que artiste, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? C'est porter au fond de soi cette profonde assurance que d'abord je suis aimée et qu'avec ce que je suis aimée, je peux donner quelque chose de cet émerveillement. Déjà, il faut reconnaître d'être aimé. C'est vrai que c'est un beau départ. Mais voilà, c'est un peu le service qu'on voudrait accomplir.
Est-ce que c'est pas aussi une façon de mettre en avant un talent qui peut être caché, oui. et qui finalement, oui. Il faut révéler, Agatha ?
Oui, bien sûr. Dans notre groupe, dans la communauté, en fait, nous avons eu des moments... assez difficile, je veux dire, quand, par exemple, nous avons eu besoin de gens. Et dans ces moments, on a prié, on a demandé au Seigneur d'envoyer quelqu'un. Et c'était des moments très précieux parce que là, on a rencontré des gens qui ne savaient pas du tout qu'ils avaient des talents. Et voilà, ils nous ont rejoints, ils ont commencé à découvrir. Et là, ils ont rejoint la communauté, ils sont restés. Donc voilà, ils ont découvert qu'il y avait quelque chose à donner au monde. Et c'est ça, c'est exactement ça que ça peut être au service. Ça leur a donné de la joie, du sens dans leur vie. Ouais. Mmh.
Tout le monde, chaque être humain a un talent au fond de lui, c'est tout. Et c'est ce que soulignait Claire tout à l'heure. Il s'agit de l'éveiller simplement. Et le rôle peut-être de ceux qui ont conscience qu'ils ont un talent, c'est d'éveiller le talent enfoui de l'autre.
De le déceler.
De les aider à se...
Et ça rejoint la foi. Hein,
parce ça que rejoint la foi,
évidemment.
Il faut
pouvoir y croire, déjà.
Et oui, c'est ça.
Ouais. Oui, mais moi, je n'y crois pas.
Oui, sans dévaloriser.
Il faut avoir encore cette humilité. Je crois que ça relève encore de la simplicité. Et de prendre du temps aussi pour se poser et dire, bon, mais alors, et moi, là-dedans, j'ai... Et justement, c'est là que cette inclinaison avec celui qui me dépasse me fait voilà, me mettre dans une belle attitude.
Mmh.
Alors, je voudrais qu'on reprenne ce texte de la Genèse en 1-2. La terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme et le souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Ce récit de la Genèse évoque l'œuvre de l'Esprit Saint. Comment les artistes que vous êtes font-ils place à l'Esprit créateur dans votre travail? Et comment celui-ci se manifeste-t-il? Ah, Daniel?
Ah, c'est très curieux. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'étais plus jeune au conservatoire, au piano, c'est laborieux souvent. Hein, et un jour, je me suis rendu compte, je devais avoir 14 ans, 13 ou 14 ans, tout d'un coup, ça s'est mis à sortir, à jouer tout seul. Ça a jailli, voilà.
Oui,
et j'ai compris que ça ne venait pas simplement de moi. Et c'était pas simplement, comme un exercice sportif. C'est-à-dire qu'au piano, au début, c'est difficile puisqu'il faut beaucoup travailler. Mais tout d'un coup, ça sort parce que l'esprit nous habite. Je crois que c'est ça. Et même des artistes qui ne sont pas croyants vivent cette expérience-là, mais ils ne le savent pas. Et c'est compliqué à je ne sais pas ce que tu en penses, Claire, mais c'est compliqué à définir ça. Soudain, on est habité, et quand on crée, c'est encore pire. Moi, j'ai créé une chanson, je me rappellerai toute ma vie, et ça m'est sorti comme ça, vroom.
Une fulgurance.
Il me manquait un mot. Une fulgurance, j'ai eu tout, la mélodie, les paroles, sauf un mot qu'après, j'ai eu du mal à mettre. Mais... Et je me rappelle, j'en avais parlé avec Michael, et il m'a dit, tu vois, mais c'est pas compliqué, c'est l'Esprit Saint qui te l'a soufflé. Mais voilà, c'était comme ça.
Agatha, ça paraît évident pour vous. En tout cas, vous acquiescez beaucoup.
Oui, en fait, oui, je me retrouve dans ce que Daniel raconte. Parce que moi, j'ai eu des moments, des grandes inspirations.
On ne sait pas, oui.
Oui, je crois que c'était comme un souffle de l'Esprit Saint. Donc, c'est vrai que dans ce que nous faisons, nous pouvons faire l'expérience...
physiquement.
Même physiquement, ouais. Peut-être que ça se réalise au moment où nous créons. Et là, on découvre que c'est quelque chose qui nous, quelque part, qui nous dépasse parce que c'est... on sent que c'est, ça vient de... pas de nous-mêmes, que ça vient de l'esprit.
Et il faut se mettre un peu à l'écart. C'est-à-dire que ça nous arrive, ça, moi je le vois, ou dans des mises en scène, par exemple, quand on faisait la Mariam, deux ou trois fois, ça m'est, pendant qu'on travaillait, et je me mets à l'écart, et les idées qui viennent ne sont pas forcément de moi. Donc,
et ça bouscule.
Et ça bouscule. Donc il faut se laisser faire.
Oui. Lâcher prise.
Lâcher prise, oui.
Alors moi, ce qui me vient en vous écoutant, c'est dans le même ordre d'idée, mais d'une façon différente, c'est l'appel. Comme si, en fait, on était appelé. C'est-à-dire que on est tout d'un coup, on se dit, mais oui, ça va vers là, ça va vers là. Oui. Et j'avais pas prévu ça, mais ça prend des dimensions que je voilà.
C'est
comme si je suis appelée. Et ça me dépasse. Oui, ça me dépasse.
Ça.
J'aurais pas vraiment choisi de faire ça.
Oui,
mais
exactement.
Et du coup, j'ai ce goût de suivre un fil conducteur et je me laisse appeler, quoi, finalement. Oui. Même s'il y a des fois, j'y crois pas trop.
C'est ce que j'allais vous demander. Il n'y a pas une part de combat parce qu'il faut aussi lâcher ce qu'on avait prévu.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Difficile. Dans des choses très simples, très simples. Voilà, que j'ai pas pensé à faire ça, mais j'ai quelque part, je me suis laissée conduire. Et puis, on voit après les fruits de cette conduite. Et on voit, waouh, que le Seigneur nous guide, qu'il nous donne des inspirations, que voilà, il faut laisser faire.
Ou parfois, c'est de sentir qu'on a entrepris quelque chose, on a entrepris une création, et on se dit, mais j'y arriverai pas. Et parce que c'est notre orgueil qui nous fait dire, j'y arriverai pas par moi-même. Et tout d'un coup, clac, ça arrive quand même. Donc c'est ça. Ou des fois, ça m'est arrivé plusieurs fois, je ne trouve pas l'artiste qui correspondrait à ça. Et tout d'un coup, paf. Voilà, ce qu'elle dit, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire, il faut se laisser, il faut abandonner notre ego. Hein, c'est ça le truc.
Ça, c'est difficile quand même.
C'est difficile.
Même si on n'est pas artiste, c'est quand même difficile.
Ce qui me vient là en t'écoutant, Daniel, c'est l'enfance.
Oui, ah ben...
L'esprit d'enfant.
C'est ça.
Hein, c'est retrouver un peu cet esprit, ce cœur, cette
simplicité.
Ouais. Oui, j'en reviens. Que... Oui, c'est ça. Michael Lonsdale disait, je me rappelle, c'était une comédienne avec qui on avait fait un spectacle sur Sœur Faustine. Et Michael lui dit, mais non, laisse-toi faire. Il lui dit, c'est simple, pour bien jouer, il faut que tu aies 5 ans. Tu as 5 ans. À 5 ans, on te dit de jouer le gendarme, t'es un gendarme. On te dit de jouer le voleur, t'es un voleur. Alors fais pareil, à 5 ans, tu ne te poses pas de questions.
La simplicité. Voilà, toutes ces belles choses seront à retrouver pendant ce Festival de la Beauté du 15 au 17 novembre à l'École de l'Annonciation à Sales et puis aussi à la Dorade pour les spectacles et concerts du samedi. Toutes les informations sur www.festivaldelabeauté.org et je signale ce soir, 12 novembre à la Communauté des Béatitudes, le spectacle sur les mystères du rosaire que vous allez interpréter, Agatha Zespol. Donc c'est un spectacle dansé, c'est à 20h30. Merci en tout cas beaucoup à chacun de vous d'être venu, Agatha Zespol, Claire Planty et Daniel Facerias. Bon festival.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.